Jean-Claude Servais, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre nouvelle bande dessinée, Bel M, sortie aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Bel M, en fait, c'est le fils de Mélusine, la fée à la beauté irrésistible qui séduit les hommes à travers les siècles. Et Mélusine, comme un peu le cheval Bayard, ce sont bizarrement des thèmes que vous n'aviez pas encore abordés.
Ben oui, dire. Tout à fait. En fait.
Comment se fait-il, vous qui êtes si prolixe, pour en avoir autant, prolifique plutôt?
Ah oui, non, mais il n'y a pas vraiment d'histoire concrète à raconter sur Mélusine. Elle existe. Mmh. En fait, Mélusine, c'est quoi? Mélusine, c'est une fée, ce sont des fragments de contes qui ont été créés sur commande par des nobles pour avoir une fée sur leur blason.
Voilà.
Et en fait, l'origine de la fée Mélusine, elle se situe pas chez nous dans la forêt d'Ardennes, mais plutôt entre Limoges et Bordeaux. Et c'est assez étonnant, et c'est remonté jusqu'en Ardennes, et c'est devenu la fée de la forêt. Mais il n'y a pas vraiment de récit. Alors, c'est pour ça que j'ai construit mon scénario de cette manière-là.
Vous aviez champ libre finalement.
Ah, complètement. Et Bel M n'est pas le fils de Mélusine, c'est deux personnages différents, mais moi je les ai mis en scène. Mais de toute façon, quand on se remet dans le contexte des conteurs à l'époque, ils racontaient, ils transformaient les histoires. Et ici je vous dis, la fée Mélusine, c'est une commande de la noblesse de la famille Lusignan, d'où le nom Mélusine.
Voilà.
Alors, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, et c'est ce que j'ai mis dans l'entête de mon album, ben, moi je suis conteur aussi, je suis libre. Et, mais ça reste tout à fait dans l'esprit, tous les personnages. Je remets un peu le cheval Bayard, les quatre fils et moi, un petit clin d'œil, aussi les chevaliers de la Table Ronde qui vont faire une quête dans la forêt, qui affrontent les dragons, et voilà, donc tout cela je ne l'avais pas encore utilisé dans mes récits précédents, parce que avec la Tchalette, avec l'Almanach, j'ai pratiquement consommé tout ce qu'il y avait au niveau des contes légendes d'Ardennes, de Lorraine, et puis de la région française ici, et même au-delà, hein, parce que les contes ils sont un peu les mêmes partout dans toutes les autres régions de France, où on retrouve une histoire plutôt avec un loup qu'avec un qu'avec un ours, qu'avec un loup si on est dans les Pyrénées, mais c'est un peu les mêmes thèmes, le diable qui n'est pas arrivé à temps, enfin le diable qui n'est, le coq qui chante au dernier moment de la construction d'une maison par des petits diablotins, et que ça devait être construit en une nuit, et puis au dernier moment on fait chanter le coq et puis qui s'effondre, et puis l'âme du fermier qui a demandé cette construction est sauvée grâce à ça. Ça, c'est des thèmes qui reviennent partout, et je pense, mais je voulais revenir à faire des contes, justement, à revenir un peu dans ce monde-là, et c'est comme ça que...
Un peu comme dans la Tchalette, finalement.
Oui, mais la Tchalette, ce sont des petits contes les uns derrière les autres. Mm-hmm. Tendre Violette, c'était ça aussi, c'est des nouvelles, c'est pas un récit continu. Mm-hmm. Et ici, j'ai fait un récit continu pour mettre en scène, justement, tous ces personnages-là, et... J'ai trouvé le château de Reinhardstein, qui se trouve
près de Malmedy.
Sors un peu de la gourbe. et c'est un château dont me parlait souvent Jean-Luc Duvivier de Fortan, qui a écrit le dossier à la fin de l'album et qui a écrit pas mal de mes dossiers, qui est un écrivain vraiment de la forêt, des contes, des légendes, et aussi du Brame, du Cerf. Il a écrit pas mal à ce sujet-là, et on se connaît de longue date parce qu'il est de ma région. Il était du côté de Palisole, maintenant il habite du côté d'Arlon, et il me parlait toujours du château de Reinhardstein.
Quand on va voir comme ça et qu'on découvre un château comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une série de photos où on commence déjà à faire des croquis sous tous les angles.
Oui, mais c'est la pré-photo. Non, mais je l'ai vu dans un premier temps sans savoir que j'allais faire une bande dessinée, mais quelques mois avant, en fait. Hein. Ça, les circonstances ont fait, j'étais en week-end pas loin, du côté de Malmedy, et puis je vois Reinhardstein, ah ben c'est tout près, ben, je vais aller voir ce fameux château. Et puis dès que je suis arrivé là, ah, quand, je ne sais pas si vous le connaissez, ce château,
non, mais
quand
je l'ai visiter, découvert.
quand vous allez le visiter, vous ne pouvez pas descendre en voiture jusqu'en dessous, parce que c'est assez étonnant, hein, parce qu'en fait, on ne le voit pas, hein, ce château. Il est dans un fond de vallée, sur un petit monticule. Donc, on ne le voit pas. Et lorsqu'on va le visiter, il faut se garer dans des pâtures, enfin, c'est des parkings, dans les pâtures au-dessus. Il faut bien faire 600-700 mètres pour pouvoir y arriver, quoi. Et vous êtes dans un tunnel végétal, et puis tout d'un coup, waouh, vous voyez ce château et la magie opère.
Alors, vous retrouvez de nouveau donc dans les Ardennes, et qui est finalement un endroit assez propice aux phénomènes paranormaux. Vous expliquez ça comment ?
Ben La forêt. Toutes les légendes, la forêt, c'est tout ce qui est paranormal, tous ces petits êtres, tous ces diables, ces dragons et tout ça, c'est lié avec la nature, avec la force de la nature, avec tout, avec les orages, avec les lumières, les cours d'eau, les effondrements de roches, les tourbillons dans les rivières.
Des spécialistes donc de la Gaume, comme vous disiez, des Ardennes. Et en Flandre, qu'est-ce qu'on a en Flandre ?
Ça, je ne connais pas. Mais j'ai un public flamand, hein.
Ah oui.
Quand même. Mais un public flamand qui s'intéresse justement à la Gaume et à l'Ardenne.
Ouais.
Pas un public flamand vraiment BD, ou alors c'est des purs collectionneurs. Parce que c'est vraiment une autre culture, hein, ça.
Et les contes sont-ils différents dans les pays scandinaves ou anglo-saxons ?
On retrouve un peu les mêmes thèmes. Vous savez, même dans des légendes africaines, j'ai retrouvé les mêmes thèmes, parce que vous avez le chef de village, le sorcier, hein, ben oui, ce sont les mêmes thèmes qu'on a aussi, nous autres, ici, hein, donc j'ai voulu élargir, j'ai lu, et puis finalement, je devinais déjà ce qui allait se passer plus loin, à force de lire des contes comme ça. C'est souvent avec des variantes qu'on retrouve les mêmes thèmes, hein.
Alors on se retrouve à la moitié du 18e. Est-ce qu'il y a des périodes de notre histoire plus propices au développement de ces contes populaires
Les contes, c'était surtout au Moyen-Âge et tout ça, mais c'est à partir de la Révolution industrielle, puis la guerre de 14 aussi, que tous ces contes, puis les croyances populaires se sont un peu évaporées. Je pense que c'est un petit peu cela. Et ici, j'ai pris le 18e siècle parce que, donc je parlais que j'avais pris ces personnages médiévaux, légendaires de la forêt, mais Belém, c'est un sorcier qui se trouvait ici un peu plus loin, plutôt dans la région vers Éowai, je pense, et là, il a vécu au 18e siècle. Mais ça me permettait de montrer une famille noble, liée avec Mélusine. Parce que j'ai inventé, hein, le château ici de Reinhardstein a été abandonné à la fin du 18e par la famille. Les nobles, bon, ceux qui étaient un peu fortunés, ne vivaient plus dans des châteaux comme ça, moyenâgeux, parce que ce n'était pas très confortable. Et puis ils ont construit des châteaux style Renaissance. Mais ici, bon, j'ai imaginé, parce que en fait, il a été abandonné à cette époque-là, et puis il est tombé en ruine, puis c'est devenu une carrière, les gens venaient se servir, prendre des pierres, avant que un professeur rachète le site. Je ne sais plus le nom de cet homme-là, mais ça s'est expliqué dans l'album, on me l'a assez répété, mais ça ne me revient pas. Et il a voué sa vie à restaurer justement ce château, mais il ne l'a pas fait d'une façon historique. Il l'a fait pour vivre dedans. Il a ouvert des fenêtres. Il y a des fenêtres, quand vous regardez là sur l'image, c'est plutôt des renaissances avec des petits carreaux, quoi. Mmh. Hein. Ce n'est pas la meurtrière. C'est tout à fait vivable à l'intérieur. Et comme il y a un peu des anachronismes comme ça, moi je me suis permis d'en faire aussi. Et finalement, ça fonctionne très bien.
Mmh. Alors bon, on voit de plus en plus les jeux de rôle qui prennent de l'importance. Les séries comme Game of Thrones, l'Heroic Fantasy, ne plus qu'à imaginer les salons où ces stands prennent de plus en plus d'ampleur au fil des années. On dirait vraiment que ça... Et au cinéma, on a les Marvel, les DC Comics. Oui. Est-ce que ça répond à un besoin de fuite du quotidien, de s'évader ?
Oh ben oui, ben je pense. Hein. Je pense, hein, parce que il faut contrebalancer aussi. Parce que quand on voit aussi ce qu'on nous propose à la télévision, c'est meurtre à Saint-Malo, meurtre ici, tueur en série avec une femme flic qui arrive dans un nouveau commissariat et qui perturbe le grand chef local. Je fais tous les scénarios en vous disant ça en 30 secondes. Hein. Alors, c'est toujours des meurtres. Je crois qu'il faut encore une petite garder une place pour le rêve. C'est indispensable parce que on n'entend que des... Tout est noir, quoi. Mmh. Donc, ici, pour moi, une bande dessinée, c'est pour emmener le lecteur dans mon monde, parce que c'est fait à ma sauce, hein, c'est pas repris tel quel. Je pense que quand on lit une de mes histoires ou qu'on voit mes dessins, on sait que c'est moi. Et c'est parce que je suis un rêveur aussi, donc je communique un petit peu tout cela.
En 84, vous avez sorti Isabelle, avec une préface de Jules Bocard. Est-ce qu'on peut dire que Quentin le Troubadour est un peu parent de Bellum ?
Oh oui, hein. Ben oui, c'est toujours un peu les mêmes personnages qui reviennent. Et puis le personnage féminin aussi, c'est récurrent, ça, hein, c'est récurrent. Évidemment, je ne fais pas deux... C'est 84, donc il y a quasi 40 ans, donc je peux me permettre de reprendre un peu des personnages comme ça. Ça, c'est... Forcément, c'est ma façon de faire, mais mes femmes, elles se ressemblent dans mes BD. Tendre Violette, et puis les sorcières, la Tchalette, la Lucie, un peu tous les mêmes personnages qui reviennent.
C'est votre univers.
Et je l'ai fait. Mmh. Ben, mon univers qui sort justement de ce monde de légende. Mmh. Et ça passe par mon imaginaire. Je suis bien imprégné dedans.
On parlait de Jules Bocam, avec qui vous aviez collaboré à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte d'ambassadeur d'un certain style de vie, un peu un Don Quichotte ?
Ah ben oui, ben oui. Mais j'ai connu les premiers disques de Jules Bocam quand j'étais étudiant en Saint-Luc, à Liège. Donc j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et... C'est comme ça que... À cette époque-là, on parlait beaucoup de lui. Mmh. Il était à la petite gaillole et tout ça. Les étudiants sortaient ça. Donc, forcément. Et quand j'ai fait l'histoire d'Isabelle, ça m'a semblé évident d'aller vers lui pour lui demander. Et lui avait envie de venir vers moi aussi. Donc, il a fait la préface bien volontiers et ça collait tout à fait, quoi.
Alors, la nature change et problème du réchauffement climatique, c'est pas un mythe. Est-ce que ça a un impact sur votre vision et sur votre travail ?
Ah ben oui, j'ai fait l'album Le Loup m'a dit, justement pour... je suis quand même... Je rêve, je suis dans ma forêt, je me rends compte quand même de ce qui se passe, je suis au courant de l'actualité. Mmh. Je regarde le JT tous les jours, je suis au courant, c'est toujours la même chose, les mêmes misères, mais enfin, bon, je suis quand même au courant. Mais quand je suis en création, je me déconnecte. J'écris dans un petit bois. Je ne sais pas si vous avez lu l'album Le Chalet Bleu. Mmh. C'est mon lieu d'écriture, ça. Chaque été. Et c'est pour ça que je sors toujours mes albums à la même date. Parce que j'écris en été, en juillet-août.
Okay.
Je termine l'album précédent, comme celui-ci qui vient de sortir, fin juin. Et puis j'enclenche sur le suivant et je fais l'écriture en été dans mon chalet. Et puis, à la rentrée en septembre, ben, je me mets à dessiner, quoi, le suivant. Et puis, en octobre, sort l'album qui a été fait avant, que je dois relire avant de faire les interviews, parce que je ne sais plus ce qu'il y a dedans, parce que je suis déjà plongé dans le suivant. Donc, voilà.
Alors Jean-Claude, petite question qui apparemment n'a rien à faire. Vous faites du VTT ?
Oui.
Expliquez-nous un petit peu.
Ah ben oui, oui.
Vous êtes un peu comme Hitchcock finalement, qui fait coucou dans ses films.
Oh bon, non, si dans cet album-ci, j'ai fait un petit clin d'œil à la fin, un épilogue. Ben, comme l'histoire se passe, on parle de personnages moyenâgeux. On est au 18e. Le château, je l'ai dessiné comme il est aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait un épilogue où on voit un cycliste qui arrive comme un chevalier de la table ronde et qui doit affronter...
Vous avez une armure chez vous?
Ah oui, j'ai une armure. J'ai pas une armure, j'ai un casque de Godefroy de Bouillon. Hein. Un home de Godefroy de Bouillon que j'avais dessiné dans un album et que j'avais acheté à la fête médiévale à Bouillon, justement pour ça. Et alors, j'ai fait beaucoup de VTT... Il y a quelques années, et puis j'avais un peu arrêté, puis j'ai découvert le VTT électrique. C'est un engin extraordinaire. C'est pas... Bon, il y en a beaucoup qui sont sur des VTT électriques qui n'ont pu rouler depuis leur adolescence. Mais moi, j'ai fait des courses à vélo, j'ai fait des randonnées dans les bois. Le VTT permet d'aller plus loin. Et d'être vraiment dans la nature, et même d'approcher plus facilement les animaux, parce qu'on est plus vite sur eux et on ne casse pas les branches, on enroule. On fait moins de bruit que quand on marche sur une branche, hein, quand on passe à vélo, comme ça. Et j'ai découvert le VTT électrique. Ces deux amis qui étaient férus de VTT, qui disaient « Oh, il y a des VTT électriques maintenant, c'est extraordinaire et tout ça. » J'aurais jamais pensé, parce que je voulais pas non plus faire le vieux pépère, je suis... parce que j'ai quand même une certaine condition. Et j'ai acheté un très bon vélo et ça me permet de passer partout et de faire tous les parcours. La côte qui tue, je sais que je la passerai. Hein, je ne me ferai pas un infarct comme certains qui essayent de suivre les petits jeunes. Mais moi, quand j'y vais, c'est toujours tout seul. C'est quand j'ai le temps comme ça. Et ça m'arrive encore bien. Je travaille, j'ai des heures presque de bureau. Je commence à 8h. Je fais une pause vers 10h, 10h30. Je bois une petite tasse de café. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et puis, j'arrête une heure à midi. Puis, je reprends. Mais... maintenant, de plus en plus, vers 2h30, 3h, j'ai un coup de barre. Eh bien, je ne me change même pas. Je prends mon vélo électrique, je vais au village voisin, aller-retour, le long de la Semois, c'est tout plat. Et puis je reviens, je suis oxygéné et je redémarre. Mais je fais du VTT, le long de la Semois, du côté de Bouillon, de Chigny et tout ça. Et c'est vrai qu'avec les vélos et les suspensions, incroyable. On passe là-dessus. Même des fois, on y fait trop confiance, je lui ai pris une gamelle de l'autre, il faut que je fasse attention.
Alors, le Bellem sort chez Air Libre, c'est le quoi, à peu près le 10e album chez Air Libre. Quel est votre modus operandi avec eux et comment vous présentez en fait quand vous avez un nouveau projet, comment ça se passe chez...
Oh ben je vais présenter le projet maintenant, mais j'ai déjà fait les 10 premières esquisses. Ils ont le scénario, hein. On va discuter un petit peu et je leur envoie au fur et à mesure l'évolution quand j'écris quoi. Mais je leur donne dans un premier temps pour qu'ils soient au courant, mais je rechange encore après. Et quand je dessine, je rechange encore. Ben oui, je suis mon propre chef. Parce que, en fait, lorsque j'écris, c'est pas à vélo. Hein, parce que là, c'est pour ramasser des gamelles. Hein. Non. J'ai une petite propriété de 3 hectares dans un fond de bois où j'ai mon chalet bleu, là. Et je me balade là-dedans, il y a des bancs dans la propriété, je m'assieds, il y a du gibier, il y a des cigognes noires, il y a des martins pêcheurs. Ah oui, c'est un endroit unique. Et vraiment, oublié que j'ai un peu ouvert, mais comme je suis discret, lorsque vous êtes en train d'écrire comme ça, ben, au début, quand on rentre dans la propriété, on chasse les animaux, ben, après, ils reviennent, quoi. Et je suis au milieu de tout ça, puis j'ai écrit, je me laisse un peu. Hop, hop, hop. Et je prends des notes, je me documente sur le sujet, je me choisis un sujet. Donc ici, pour écrire cet album, j'y suis pas arrivé du premier coup, parce que c'était quand même assez difficile de le faire. Je voulais faire ces personnages. Mais les mettre en scène, trouver une histoire où tout s'enchaîne comme ça, tout ce que j'ai raconté, c'est pas venu du premier coup. Hein. Et j'ai quand même, avant de déposer un projet ici chez Dupuis, mon comité de lecture personnel ici à Angoume, ce sont les anciens libraires du club de la bande dessinée à Florentville qui ont 10 ans de plus que moi. C'est un couple, et ce sont mes premiers lecteurs.
C'est ça.
Et alors, il y a aussi Guy Servet, Guy Rêve, qui fait mes mises en couleur. Et lorsque j'ai un projet, je leur envoie déjà. Et puis, en fonction de leurs remarques ou de leurs hésitations, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, le temps qu'ils lisent, moi, j'ai déjà un peu été un peu plus loin. Puis, on en discute un petit peu. Et puis je fais les corrections nécessaires. Et ici, j'avais fait un premier montage... du prochain album, où là ce seront des courtes histoires. Je fais un bestiaire là, maintenant, en reprenant des contes sur les différents animaux pour faire connaître les différents animaux, et il y aura un thème par album. Et le premier thème, ce sera le renard. Et j'avais fait une juxtaposition de contes, comme j'avais fait un peu dans la Tchalette, quoi. Mais on sentait que ça ne.
Prenez pas.
Et finalement, j'ai fait des intercalaires entre les contes, où c'est un récit entre des personnages aujourd'hui et qui ont un lien avec le personnage du renard. Et puis je parle aussi de l'animal totem et tout.
Voilà.
Le côté un peu chamanique. Enfin, j'ai fait tout un truc. C'était aussi une gymnastique pour arriver à mettre tout cela en scène. Et c'est vrai qu'ici, je vais discuter un peu avec les gens de chez Dupuis. J'étais un peu inquiet pour voir comment j'allais m'en sortir avec ça. Et je viens là maintenant, je suis en train de faire tous les intercalaires avant de faire les contes qui viennent.
C'est ça.
S'incorporer dans une certaine logique entre tous ces petits chapitres intercalaires.
Jean-Claude, un grand merci. Donc on rappelle Belém qui sort le 28 octobre en librairie. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.